Connaissances et témoignages.
Chers auditeurs, bonjour. Nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui quelqu'un dont la voix est familière sur cette antenne, puisque c'est Bernard Riault, qui vient de publier aux éditions Coop Braise deux ouvrages très différents l'un de l'autre. Un roman, que je ne suis pas sûre que le terme soit approprié pour désigner ce petit chef-d'œuvre, intitulé « Un dieu sauvage », un livre de 205 pages, vendu 18 euros, et un très bel album, « La lumière des siècles », toujours chez Coop Braise, 255 pages, 29,90 euros. Bonjour Bernard Riault.
Bonjour Anne-Bernay.
Vous êtes historien, spécialiste, le grand spécialiste, dirais-je, du patrimoine et du folklore. Vous êtes aussi un randonneur infatigable, connaisseur de toutes les routes et tous les sentiers de France et d'Europe. Mais vous avez une prédilection pour la Bretagne et le monde celte. Auteur d'une cinquantaine d'ouvrages passionnants, je recommande entre autres le Dictionnaire des saints bretons, qui est un livre que tout le monde devrait avoir dans sa bibliothèque. Ouvrage passionnant qui évoque les liens entre la foi, les traditions, les coutumes oubliées issues du paganisme, enfin tout ce monde mystérieux, à demi enseveli au fond de nos mémoires, mais qui fait étroitement partie de nous-mêmes sans que nous le sachions toujours. Vous venez, Bernard Riault, de publier un livre merveilleux, je le disais, inclassable. Roman, parabole, conte, tout cela à la fois. Un dieu sauvage, qui s'avère, dès que l'on commence sa lecture, fascinant et, j'ose le mot, magique. D'abord, de quoi s'agit-il et qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre ?
Tout d'abord, merci pour tous ces compliments. Ce livre, il a une histoire, puisqu'il est paru à mi-octobre, juste avant le second confinement, aux éditions Coop Braise, qui est un de mes éditeurs, en Bretagne donc, mais qui diffuse dans toute la France. Et puis, il a été écrit, fini d'écrire à l'été 2019, donc il y a un moment déjà.
Donc avant la crise.
Effectivement, avant tout ce qui s'est passé depuis un an dans le monde. Et je l'avais en fait terminé à l'été 2019, mais je le portais depuis 9 ans, ce livre. J'ai fait une première écriture qui ne me plaisait pas, et puis je l'ai mis dans un tiroir. Un an plus tard, je l'ai ressorti, je l'ai fait une deuxième écriture, et ainsi de suite pendant 9 ans. Et puis l'été 2019, je me dis, bon, il faut que je retire ce petit grain de sable qui est dans un coin de ma tête, il faut que je m'en débarrasse. Et donc j'ai fait ma dernière écriture, et pour effectivement m'en libérer. C'était quelque chose qui me pesait un peu, mais je ne voulais pas m'en libérer, donc je n'étais pas satisfait du compte rendu. Alors d'habitude, j'ai écrit effectivement des ouvrages plutôt d'une traite, c'est-à-dire que quand je prends un sujet et qu'il arrive à maturité, que j'ai tous les éléments pour le traiter, je bloque mon agenda, je m'enferme dans ma maison au bout du chemin, et puis j'écris. Voilà. Et là, c'est pas du tout le cas. En fait, c'est un travail récurrent qui est venu. Un peu comme la marée revient 2 fois par jour, et bien voilà, là, périodiquement, tous les ans, je reprenais ce texte pour le retravailler.
Et c'est une grande réussite. Nous sommes dans un monde parallèle peut-être, ou dans un avenir malheureusement plausible, une chape de plomb bienveillante, ou qui se prétend telle, s'est abattue sur ces terres dont toute liberté a été finalement bannie, toute culture aussi. Vous inventez même, Bernard Riault, un ministère terrifiant, celui de l'analphabétisation, qui par les temps qui courent avec la fermeture des librairies prend une résonance assez particulière.
Oui, en fait, la réalité a rattrapé la fiction que j'avais imaginée, mais que je pressentais. J'ai été marqué, quand j'étais étudiant, par la lecture d'un ouvrage d'Ernst Junger qui s'appelle « Sur les falaises de marbre », qui avait été écrit dans les années 30, qui était un ouvrage prémonitoire. Ernst Junger avait vu ce qui allait se passer, il avait senti les choses, et il avait écrit ce magnifique ouvrage sur les falaises de marbre, dont je recommande toujours la lecture. Et puis, dans la même foulée, vous aviez eu Julien Gras, qui avait aussi écrit au château d'Argolles, avec, là encore, quelque chose d'un peu prémonitoire. Et Dino Buzzati, avec le désert des Tartares. Donc, en quelques années, 3 écrivains majeurs, un Français, un Allemand, un Italien, écrivent des livres qui vont avoir une portée surprenante. Alors, je ne dis pas que ce sont des écrivains visionnaires, je pense qu'ils sentaient les choses. Et depuis des années, je sens ma petite taille, hein, dans mon petit coin, je sens que les choses arrivent d'une manière effrayante, une perte de repères, une perte de liberté, un conditionnement à un gouvernement par la peur, toujours pour le bien des gens, c'est toujours pour le bien de l'humanité qu'on prend des mesures terribles. Et tout cela, ça se passe comme un rouleau compresseur, et l'espace de liberté diminue, on perd son esprit critique, on est contraint. Et c'est ce que j'ai tenté d'expliquer dans ce roman, c'est comment dans une société où tout désordre est interdit, où toute pensée est interdite, où on a supprimé effectivement le livre, qui est une manière d'enrichir, d'ouvrir un espace, d'ouvrir la fenêtre et de se cultiver. Lorsque le livre est interdit, eh bien, on n'a pas de mauvaises pensées, parce que le livre induit des mauvaises pensées. Eh bien, dans ce monde où rien n'est permis, où rien n'est possible, que va-t-il se passer et que peut-il se passer? Et c'est là où je suis fondamentalement optimiste, et même aujourd'hui, hein, malgré tout ce qui se passe autour de nous, je reste optimiste. Je pense que la nature a horreur du vide et qu'il existe une notion dont on a un peu oublié et que je rappelle souvent, la divine providence, et je pense que la divine providence existe et que le grain de sable arrive et que le grain de sable va effectivement dans cette fiction transformer cette société, apporter un désordre salutaire, un vent de liberté va souffler et rien ne va se passer comme le gouvernement en place dans ce pays imaginaire souhaiterait que ça se passe.
Alors il y a la région des frontières maritimes qui ressemble terriblement à la Bretagne, en tout cas à l'espace celtique, où soudain, en plein été, un espoir impossible va jaillir. Par l'intermédiaire des femmes, car les miracles dans ce livre se produisent grâce à des femmes. Senthal, la tisseuse, qui tisse le destin, qui tisse l'avenir avant qu'il se produise. Andarta, la bibliothécaire, qui garde l'archiviste, qui garde les livres interdits et qui les lit, ce qui la protège. Béara, l'aubergiste, et Mata, le jeune médecin qui ne s'est pas laissé embrigader en dépit des apparences. Qui sont-elles? Et pourquoi possèdent-elles le pouvoir de ressaisir les fils de ce monde et de l'existence?
Alors effectivement, les femmes ont le beau rôle dans ce livre et les hommes sont un peu palots, médiocres, serviles, pas très très intéressants. Alors effectivement, les femmes ont le beau rôle, ce sont les parcs, ce sont les grâces, hein, ce sont les déesses mères, on pourrait dire, de la préhistoire. C'est la Sainte Vierge aussi, en quelque sorte. C'est toutes nos saintes caniculaires, hein, Sainte Marguerite, Sainte Marthe. Effectivement, ces femmes vont porter l'espoir, elles vont porter le monde. Alors, elles vont chacune, à leur manière, incarner un aspect de l'humanité. L'aubergiste, c'est celle qui représente qui représente le plan physique, les nourritures terrestres. Elle donne à manger, hein, elle nourrit le corps. Andarta, la bibliothécaire, elle représente plutôt les choses intellectuelles, le monde de l'esprit. Donc, ce sont les nourritures, non pas terrestres, mais les nourritures intellectuelles. Elle va nourrir l'esprit. Mata, le jeune médecin qui va faire le lien entre les deux, c'est un peu ce que moi je considère comme l'anima mundi, l'âme du monde, celle qui va éveiller. Et puis la dernière, l'héroïne principale, Senta, la tisseuse, c'est l'incarnation des trois réunis, c'est-à-dire c'est la vie, c'est l'élan vital, c'est l'espoir, c'est tout ce que représente la femme, hein, la féminité dans ce monde où on ne parle plus de genre. Eh bien, moi, je préfère parler des genres, et effectivement, c'est aussi ce livre, une ode à la femme, à la fille, à l'amante, à tout.
Elles sont les sentinelles de l'invisible dont parlait Jean-Paul II.
Tout à fait, tout à fait.
Et puis, derrière ces femmes, il y a, est-ce un homme, est-ce une ombre, est-ce un rêve, aux multiples visages, que l'on appelle le chasseur, ou Inotus, et que symbolise-t-il?
C'est l'impossible, c'est l'improbable, c'est la nature agissante. Alors j'ai volontairement, sciemment joué dans la description de ce personnage, et c'est au lecteur de choisir si ce personnage est un fantôme, un fantasme, même étymologie d'ailleurs, un reflet ou une réalité. À chacun de mettre dans les mots que j'utilise sa propre projection du monde. Mais ce personnage représente la nature et qui est pour moi une grande force. Je suis quelqu'un qui vit dans un milieu préservé, j'ai cette chance-là. Je suis confiné depuis des années dans mon bocage et dans ma forêt, mais je vis au rythme de la nature et ce personnage va apporter ce que André Dautel, un auteur un peu oublié aujourd'hui, avait indiqué comme étant le détail signifiant. Toute son œuvre est basée sur cette notion du détail signifiant. Et ça veut dire que toute chose a un sens, même le détail minime, le vol d'un oiseau, ce n'est pas simplement un vol d'un oiseau, c'est aussi une pensée que cet oiseau va éveiller en le regardant et en passant. Et donc c'est une vision que je dirais un peu interactive ou plutôt magique du monde.
J'ai envie de vous poser une question fondamentale. Comment pouvons-nous éviter de nous retrouver dans la même situation que le peuple de l'État-vie? Quels sont les remèdes, les moyens de se libérer?
Ne pas avoir peur. D'abord, ne pas avoir peur. Avoir confiance. Avoir confiance en soi. Parce qu'il faut d'abord avoir confiance en soi pour pouvoir faire confiance aux autres. Ne pas avoir peur et... sourire à l'adversité. Le meilleur moyen de chasser les vieux démons, c'est de sourire. De sourire à la vie, de faire comme si de rien n'était. Et effectivement, de ne pas entendre. Alors moi, je n'écoute plus, je ne regarde plus la télévision, parce que c'est une machine qui
à décerveler.
Oui, et qui déprime. C'est-à-dire que ce sont des flots de mauvaises nouvelles répétées en boucle. Et puis, quand ce ne sont pas les mauvaises nouvelles, ce sont des émissions qui ne servent à rien, qui n'apportent rien, si ce n'est à occuper le temps. Et plutôt que d'occuper son temps à regarder des imbécilités, je préfère, moi, méditer, prier, me promener, lire, enfin, toutes choses qu'on voudrait nous interdire aujourd'hui, puisque effectivement on a fermé les librairies, on a interdit les promenades dans la nature,
on a suspendu le culte,
on a fermé les églises qui sont des lieux de prière, des lieux de communion avec Dieu. C'est un monde effectivement diabolique. Je pèse mon mot, hein. Un monde diabolique qui nous est proposé aujourd'hui et qui nous est imposé aujourd'hui.
Contre lequel il faut en effet se soulever spirituellement.
Tout à fait. Et vous savez, le diable n'a jamais gagné la partie. Que ce soit dans la mythologie ou que ce soit dans les contes, le folklore populaire. Moi, j'ai dans un autre ouvrage, j'avais traité de ces contes et de la place du diable dans le conte. Le diable est un imbécile. Il se croit puissant, il se croit l'égal de Dieu, mais c'est un imbécile. Et donc, il faut être plus intelligent que le diable. Voilà.
C'est une belle leçon d'optimisme, Bernard Rioux.
Je reste optimiste.
Quand vous parlez justement de ce folklore, de ces légendes, cela nous permet d'aborder cet autre très beau livre, La lumière des siècles, que je recommande spécialement en cette période de fête, parce que c'est un livre qu'il faut offrir. C'est un livre d'art, c'est un livre d'histoire, car il raconte l'histoire de la Bretagne à travers le vitrail. C'est une idée originale.
Oui, alors c'est une idée tout livre que je prépare vient du... toujours d'une conversation, donc une rencontre avec quelqu'un. Et donc là, la question m'avait été posée par un de mes lecteurs lors d'une conférence que je faisais, et il me demandait s'il existait des vitraux représentant la Révolution française, et notamment la chouannerie en Bretagne. Alors, dans mon esprit, je lui ai cité un vitrail que je connaissais et la conversation s'est interrompue. Et puis, le soir, j'ai réfléchi à cette question qui n'était pas anodine, à savoir, existe-t-il dans les sanctuaires, dans les églises, les chapelles, les basiliques, les cathédrales, des vitraux qui représentent autre chose que des scènes religieuses. On connaît tous, effectivement, dans les grandes verrières du chevet, ces admirables vitraux à partir du XIIe, XIIIe siècle, sur la Passion du Christ notamment, ou ces grandes verrières représentant les miracles des saints patronnant le sanctuaire. Et en me posant cette question, à savoir est-ce que l'histoire est présente dans le vitrail, j'avais la réponse oui, bien sûr, l'histoire est présente dans le vitrail. Parce que l'église est au cœur de la ville ou du village, comme la chapelle est au cœur du hameau, et c'est le lieu où on se réunit. On se réunit pour prier, on se réunit pour les grands événements de la vie, la naissance avec le baptême, le mariage, le décès, l'enterrement. Mais c'est aussi, l'église a été longtemps, très longtemps, un lieu où les fabriques réunissaient leurs fabriciens. Et c'était donc un lieu où la vie du village avait lieu. Et bien évidemment, cette église va conserver les grands événements marquants de la vie et c'est vrai pour la Bretagne sur laquelle j'ai travaillé, mais c'est vrai partout. C'est-à-dire que l'église va conserver la mémoire des faits historiques importants du lieu où on est. Donc on va ainsi retrouver à raison dans la presqu'île de Ruys un magnifique vitrail sur une bataille navale à Saint-Calogildo dans les Côtes d'Armor. On va retrouver une magnifique représentation de la bataille de Saint-Ca contre les Anglais au XVIIIe siècle. On va retrouver bien sûr à Bignan le pays de Guillemotte, le roi de Bignan, frère d'armes de Cadoudal. On va retrouver effectivement une scène représentant une messe avec l'abbé Nourry, prêtre réfractaire pendant la Révolution. À Assérac, on va retrouver un vitrail représentant l'exécution du maire d'Assérac qui avait effectivement protégé des prêtres réfractaires pendant la Révolution. On va retrouver à Montrelais, dans le pays d'Ancenis, proche du Maine-et-Loire, on va retrouver une magnifique verrière du XVIe siècle représentant François Ier, Charles Quint, Henri VIII, les trois grands souverains de l'époque, sur une verrière qu'on peut identifier puisqu'on connaît les armes de chacun. Dans l'église Saint-Fiacre des Ifs, à côté de Rennes, entre Rennes et Saint-Malo, on va avoir une verrière représentant Bertrand du Guesclin avec ses armes aussi. Donc on peut identifier, puisque ces vitraux ne sont pas légendés, donc on ne sait pas a priori ce qu'il y a dessus. Donc mon travail, ça a été de décrypter, de chercher effectivement la représentation et l'identification de ces personnages.
Au-delà de l'aspect historique qui va très loin, puisque il couvre quasiment toute l'histoire de la Bretagne depuis les saints fondateurs jusqu'au bombardement de la Libération en 44, c'est un très large panorama. Vous abordez également l'histoire religieuse, bien entendu. Il y a un aspect, je trouve, très très intéressant, qui est d'ailleurs propre à l'art du vitrail, c'est le bestiaire. Un bestiaire chrétien et païen à la fois, où se rencontrent des bœufs, des loups, des chiens, des ânes, des cerfs, et j'en passe. Tous ces animaux ont une signification profonde et très très ancienne.
Oui, tout à l'heure je parlais à propos de mon roman d'une vision magique du monde, et bien cette vision magique du monde, nous l'avions, et nous l'avons toujours, mais nous l'avions particulièrement représentée pendant tout le Moyen-Âge et la Renaissance. Le saint armoricain, qui est essaimé dans toute la France, hein, saint Menou dans l'Allier, le Bourbonnais est un saint irlandais, hein, qui s'est arrêté dans l'Allier puisqu'il était parti à Rome, et donc il est mort à son retour du pèlerinage à Rome. Mais donc tous ces saints ont une vision magique du monde et une perception conception magique du monde, avec une nature agissante et avec effectivement, ce que tout à l'heure je parlais, la providence divine, l'intervention de Dieu. Et lorsque Dieu se manifeste, il se manifeste aussi par l'intermédiaire de phénomènes naturels, la foudre qui va s'abattre dans un lieu, qui va indiquer que ce lieu est un lieu saint, et donc on va édifier une chapelle, un oratoire sur le site, mais aussi l'animal, le loup avec Saint Hervé, le loup qui est animal sauvage, qui va devenir le chien guide d'aveugle d'Hervé, hein, de Saint Hervé. Donc on a effectivement une relation particulière avec la nature qui et des animaux qui sont pas forcément très sympathiques, qui sont des prédateurs et qui par la nature divine et la vertu thaumaturgique du saint vont se transformer en animaux sympathiques, empathiques, comme on dirait aujourd'hui.
Ce sont aussi souvent des animaux psychopompes. Bon, c'est le cas du chien, c'est le cas du cerf, qu'on retrouve d'ailleurs dans le mythe de Saint-Hubert, mais dans bien d'autres.
Oui, qui relie le monde visible et le monde invisible, le monde des vivants et le monde des morts. Donc ça, c'est effectivement, c'est encore une vision de très cartésienne de notre espace, de notre vie, de notre espace-temps. Lorsque Saint Éderne ou Saint Élo chevauche le cerf, il ne fait pas que simplement que chevaucher un animal sauvage. Il passe d'un monde à l'autre. Il relie le monde visible et le monde invisible. C'est la magie, effectivement, le miracle qui a lieu et qui a lieu au vu et au su de tous, puisque ce phénomène est décrit et prégnant. Alors, pas simplement au Moyen Âge et dans les hagiographies des saints, on va le retrouver effectivement jusqu'à le 17e, 18e siècle, un peu moins après, même moins après, puisqu'on est passé dans l'âge de la raison, donc on ne croit plus qu'à ce qu'on voit, comme saint Thomas, malheureusement. Mais nos églises, effectivement, ont cette faculté d'avoir conserver cette mémoire d'un temps passé, d'une vision ancienne du monde, une vision effectivement beaucoup plus large que ce que nous avons aujourd'hui avec une vision rétrécie de notre espace. On regarde ce qui est devant nous, on ne regarde plus derrière nous, on ne regarde pas sur le côté, on est conditionné pour ne voir que ce qu'on doit voir.
Bernard Rio, malheureusement, cette émission est passée trop vite. Elle touche à sa fin alors que nous aurions pu discuter pendant des heures encore. Il y a d'autres sujets que nous aurions pu aborder. Vous parlez de Saint-Yves, vous parlez de Sainte-Anne, vous parlez des sanctuaires dédiés à la Vierge en Bretagne. Donc c'est un livre inépuisable, d'une grande beauté esthétique. Alors, je voudrais rappeler à nos auditeurs que vous venez de publier « Un Dieu sauvage », qui est un livre absolument merveilleux. Un livre magique, j'insiste sur le mot. Et ce très bel album, La Lumière des Siècles, tous les deux chez Cobb Rez, des livres qu'il faut lire et qu'il faut même méditer. Merci encore Bernard Rio pour tout cela.
C'est moi qui vous remercie.